Nous sommes à Matthieu chapitre 7, plus précisément le verset 12. Nous avions regardé avec vous cette portion d'écriture qui s'est étendue des versets 7 à 11, où Jésus voulait encourager ses disciples à la prière. Il leur dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez au verset 7, Matthieu chapitre 7, frappez et l'on vous ouvrira et vous en connaissez la suite. Et nous avons considéré cette portion pour dire que Jésus encourage son peuple à la prière. J'ai expliqué pourquoi Jésus semble interrompre son discours pour parler de la prière. Je vous avais dit qu'en apparence, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation entre ce qu'il a dit, qu'il vient de dire jusqu'au verset 6, et ce qu'il est en train de dire à partir du verset 7. Mais j'ai tout réglé cela avec vous par la grâce du Seigneur. On a considéré cela. Ce sur quoi je me suis attardé beaucoup, c'était les arguments de Jésus pour nous inciter à la prière, pour nous encourager, exhorter à la prière. C'est quand il dit que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre Père, il est notre Père parce que nous sommes ses enfants, il est notre roi, eh bien, ce Dieu-là, eh bien, il est infiniment, il est incomparable. On ne peut pas le comparer avec les pères humains. On ne peut pas comparer ce Dieu-là avec les mères humaines. Hein? Et dans sa générosité, dans sa sensibilité, et dans son amour, dans sa fidélité. Et alors, ce Dieu-là, nous avons intérêt à prier continuellement ce Dieu-là. Je vous avais dit que les verbes se trouvant au verset 7, eh bien, révèlent, suggèrent, eh bien, une vie de prière. Une persévérance dans la prière, une constance dans la prière. Et alors, ce Dieu-là mérite qu'on ait cette posture devant lui dans la prière parce que même les pères humains, les mères humaines, tout pécheurs qu'ils sont, quand nous leur demandons le nécessaire pour la vie, ils nous les donnent dans la mesure du possible. Et quand ils ne sont pas capables de le donner, eh bien, ils ont le cœur qui s'arrache, ils ont le cœur qui se fend, parce qu'ils sont tristes de ne pas être capables de nous les donner. Et ainsi, quand ils sont capables, mais ils nous donnent promptement. Le Christ s'est basé sur cette illustration, sur cette situation de la vie humaine, pour nous dire, à plus forte raison, que notre Dieu, eh bien, ne nous répondra-t-il pas quand nous prions. Alors, c'est de cette façon-là que je peux résumer rapidement eh bien, l'enseignement de mercredi passé avant que je puisse enchaîner avec l'enseignement d'aujourd'hui. Et l'enseignement d'aujourd'hui commence au verset 12 quand la parole de Dieu dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous » Matthieu chapitre 7, le verset 12 « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous » eh bien, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, si vous demandez, qu'est-ce que la loi et les prophètes? Que veulent la loi et les prophètes? Que disent la loi et les prophètes? Eh bien, Jésus répond en disant, la loi et les prophètes se résument par ceci. La loi et les prophètes disent ceci, à savoir, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors, ce verset 12 de l'Évangile selon Saint Matthieu, qui rappelle le résumé de la loi et des prophètes, est appelé communément dans la littérature évangélique, la règle d'or. C'est la règle d'or. Si vous entendez quelqu'un parler du point de vue de la littérature évangélique et dit la règle d'or, vous connaissez la règle d'or, vous vous rappelez la règle d'or, mais il fait référence à ce verset que nous avons et ses synonymes que nous avons dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Et cette règle d'or que nous avons ici, eh bien, est synonyme de ce que nous avons en Matthieu 22, le verset 39, Lévitique 19, le verset 18, est synonyme de toujours cette règle qui est exprimée sous d'autres mots, à savoir « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Matthieu chapitre 7, le verset 12, eh bien, exprime sous d'autres mots, et Lévitique 19, le verset 18, qui dit « tu aimes », entre autres, qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, la règle d'or nous indique, nous enseigne, nous apprend, nous dit comment aimer, les autres. Comment aimer les autres et surtout, comme l'apôtre Paul le souligne très bien dans Galates chapitre 6, le verset 10, comment aimer tout le monde et particulièrement ceux qui font route avec nous pour le ciel, ceux qui font route avec nous pour l'éternité. Je ne me rappelle pas, il y a des gens qui ont prié tout à l'heure, précédemment, pour la vie d'amour entre les enfants de Dieu. Celui qui aime les autres a accompli la loi, dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 13, le verset 8, à ne pas confondre nécessairement à Galates chapitre 6, le verset 10 que je viens de mentionner, où est-ce que Saint Paul, l'apôtre Paul, ci-devant Saul de Tarse, met l'accent sur eh bien, la pratique du bien. Faites du bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Donc, l'amour suppose de faire du bien. Et l'amour en acte suppose eh bien, le fait de faire du bien de ce que nous trouvons dans ces versets-là. Jésus est en train de nous enseigner, de nous rappeler que ce que nous faisons pour les autres est important. Et ce que nous faisons pour les autres n'est pas déterminé par ce que nous souhaitons que les autres fassent pour nous. Ce que nous faisons pour les autres n'est pas déterminé par ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous. Nous ne faisons pas du bien aux autres parce que nous nous attendons en retour qu'ils nous fassent du bien. C'est plus large que cela. Sans quoi ce serait de l'amour calculé. Ce serait de l'amour avec intérêt, l'amour intéressé. Ce que Jésus enseigne à Matthieu 7, le verset 12, c'est plutôt eh bien, la charité ou bien l'amour au sens propre du terme, au sens biblique du terme, au sens évangélique, au sens éthique du terme, en parlant de l'éthique du royaume. C'est plus large que ça en termes de mode de vie. En termes de mode de vie, c'est-à-dire que nous faisons pour les autres ce que nous voulons que les autres fassent pour nous et non ce que nous désirons que les autres fassent pour nous. C'est pas pareil. Ou ce que nous souhaitons, il y a une différence entre les deux. L'un parle de principe, le deuxième parle de principe et le premier parle d'intérêt. Voyez-vous? Donc, c'est bien important de faire la différence. Pas en termes de « je t'achète une pomme aujourd'hui » de telle manière que demain tu m'achètes deux pommes ou trois pommes ou que tu m'achètes un lapin ou comprenez-vous? C'est de ça qu'il est question. C'est pas vouloir en termes personnels du terme, voyez-vous? C'est vouloir en termes de, eh bien, généralité, en termes de principe de vie. Et voyez-vous, ce n'est pas vouloir en termes de donnant-donnant. Non, c'est plutôt vouloir que les autres fassent pour nous, eh bien, en termes généraux du terme. Donc, sans calcul, hein, sans préoccupation, sans se soucier de recevoir en retour. Si nous ne prenons pas le temps de l'expliquer comme cela, eh bien, il y a des gens qui peuvent se méprendre, eh bien, sur le sens. Eh bien, de ce verset. Donc, c'est important. Donc, pour Jésus, pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament, la règle d'or, telle que nous venons de l'entendre, et à la suite du Christ, eh bien, c'est un élément fondamental. C'est une pièce maîtresse de ce qu'on appelle, eh bien, de ce que nous sommes en train d'étudier. Depuis un certain temps, l'éthique du royaume de Dieu. Nous savons, vous et moi, que pour vivre selon la règle d'or, ça prend eh bien, une bonne dose de force, une bonne dose de sagesse. Pour vivre selon la règle d'or, qui est le principe fondamental du royaume, eh bien, les citoyens du royaume, les enfants du royaume, comme vous et moi, et ceux qui ont vécu avant nous, ceux qui vivront après nous, ils ont besoin d'une bonne dose, eh bien, de sagesse, de force, mais aussi de direction du Saint-Esprit de Dieu. Dans la mesure où, comme j'aime à le répéter, l'amour n'est pas quelque chose qui est naturel. L'amour est créationnel et l'amour n'est pas naturel. Et dans le sens où l'être humain est compte tenu de son état de dépravation, de déchéance par rapport à la chute, par rapport au péché, eh bien, il n'est pas né pour aimer. C'est seulement l'être régénéré et l'être transformé par la puissance du royaume, eh bien, qui peut vivre l'amour au sens biblique du terme. Et alors, même en étant racheté, même en étant régénéré, même en étant transformé, même en ayant la nature de Dieu en nous, et les citoyens du royaume ont besoin, eh bien, que le Saint-Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour, un esprit de sagesse, un esprit de révélation, puisse les aider dans ce combat qui est le leur, qui consiste à vivre avec cette philosophie toujours présente, cette éthique toujours présente dans leur pensée, dans leur cœur, et qui consiste à faire aux autres ce que on voudrait que les autres nous fassent. Sinon, c'est le contraire qui va arriver. Et c'est le contraire qui a toujours tendance à prendre le dessus. Et cela semble pas étonnant dans la mesure où, eh bien, nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes, eh bien, des pécheurs. Donc, je parlais en début de présentation, dans mes propos de préambule, je parlais de l'importance de la prière, mais tout cela contribue à l'importance de la prière, d'être capable de faire des choses que Dieu nous appelle à faire, de vivre une vie que Dieu nous appelle à vivre, que personnellement, on n'est pas capable de vivre. On n'a pas été fait pour vivre, puisque nous sommes nés dans le péché et conçus dans l'iniquité. Mais Dieu qui nous demande cela, il sait que c'est possible. Étant enfant du royaume, il ne demande pas ça au monde. Nous avons vu mercredi dernier, que toutes les promesses que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5 à 7, dans le sermon sur la montagne concerne les enfants de Dieu, eh bien, il y a aussi de ces demandes-là qui concernent uniquement les enfants de Dieu et les citoyens du royaume. Donc, cela, c'est pour dire que si Dieu nous le demande, c'est possible. Mais on sait que possible ne veut pas dire facile et difficile ne veut pas dire impossible. Tout ça, c'est pour dire que ça prend la présence vivifiante, vivante, réelle, l'activité, le ministère quotidien de tout instant du Saint-Esprit de Dieu dans la vie du croyant pour, eh bien, arriver à répondre à cette commande que Dieu nous adresse en Matthieu chapitre 7 et ailleurs, le verset 12 et ailleurs, quand le Christ dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ce que cela veut dire, c'est que il faut, et le Christ nous appelle à pratiquer le bien, à vivre l'amour. C'est l'amour. Faites ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, eh bien, résume en un mot qui s'écrit en trois lettres, en cinq lettres, pardon, aimer, hein, et c'est seul, ça résume tout. Celui qui fait pour les autres et aux autres ce qu'il veut que les autres fassent pour lui, eh bien, c'est celui qui vit dans l'amour, au sens que je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, bien important de comprendre que nous ne pouvons pas aimer de manière naturelle, mais nous pouvons aimer de manière divine parce que nous avons la nature de Dieu en nous, puisque nous avons pour Père le Dieu d'amour. C'est seulement parce que nous avons le Dieu d'amour que nous pouvons vivre une vie d'amour. Le monde ne peut pas vivre une vie d'amour. Peu importe ce qu'on entendra de la moralité du monde, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts pour aimer, pour vivre, mais nous comprenons que l'amour au sens biblique du terme, ça demande vraiment la nature divine parce que Dieu est un père d'amour, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est amour, dit la Bible, Dieu est amour. Donc l'enfant de Dieu seul est capable d'aimer au sens où Dieu s'attend à ce que eh bien, nous aimons. Donc très, très important de comprendre cela. Et je crois que ça fait le tour pour la règle d'or que nous trouvons au verset 12, et ainsi nous pouvons enchaîner avec les versets 13 et à 14. Nous allons lire verset 13 à 14, toujours de Matthieu, chapitre 7. Lisons au verset 13 à 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Ça, c'est Matthieu chapitre 7, le verset 13. Et au verset 14, le Christ enchaîne, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ah, c'est important. Il y en a beaucoup qui entrent par là, au verset 13. Et au verset 14, il y en a peu, peu c'est le contraire de beaucoup, hein. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, qui les trouve, c'est qui trouve quoi? Qui trouve la porte étroite et le chemin qui mène à la vie. Alors, c'est ça, oui, les. Les, c'est, il y en a peu qui trouvent la porte étroite, il y en a peu qui trouvent le chemin qui mène à la vie. Bien important de comprendre cela. Jésus appelle les gens, et nous comprenons ici qu'il s'agit de la foule. Hein, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, votre serviteur vous avait déjà dit que il y avait dans l'auditoire, eh bien, des gens du royaume, des citoyens du royaume et d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, nous comprenons que quand Jésus adresse cette invitation à entrer par la porte étroite, nous comprenons qu'il s'adresse, eh bien, cette partie-là de son discours s'adresse à la foule, à ceux qui se questionnaient s'ils devaient rentrer ou pas dans le royaume, et à ceux qui le suivaient, qui l'écoutaient enseigner, mais qui avaient une décision à prendre par rapport au royaume. Ceux qui ont déjà pris la décision, eh bien, ils ne sont pas visés au premier chef par cette partie-là, cet appel-là du discours. Bien sûr, dans un autre sens, par extension, on pourra dire qu'ils sont visés, mais a priori, ce sont ceux qui ne sont pas encore et passés par cette porte-là, eh bien, qui sont concernés par cet appel. Ça, c'est une première remarque très importante. Jésus, maintenant, appelle les gens, eh bien, à décider. Il appelle les gens qui l'écoutaient ou une partie des gens qui l'écoutaient à prendre une décision à savoir s'ils deviendront citoyens du royaume de Dieu, héritiers de la vie éternelle, ou alors, s'ils préfèrent décider de rester citoyens du monde, ou alors citoyens du royaume des ténèbres. Et par le fait même, s'ils persistent eh bien, dans cette voie-là jusqu'à la mort, eh bien, arriver à aller à la condamnation, arriver à la condamnation, atteindre la condamnation. Rappelons-nous une chose, à savoir que Jésus a révélé dans les versets précédents les normes du royaume, les normes de Dieu, l'éthique du royaume. Il parlait de ces normes-là comme étant des normes saintes, des normes parfaites. Et il les opposait, il parlait de ces principes-là comme étant des principes parfaits, comme étant des principes saints. Et ils opposaient ces normes ou ces principes-là, eh bien, aux principes injustes et à des scribes et des pharisiens. Et maintenant, c'est le temps pour Jésus, au verset 13 à 14, de maintenant faire un appel. Et la plupart du temps, c'est comme ça, ça se passe. Et le prédicateur, le discoureur, l'orateur, l'enseignant a fini d'exposer la vérité qu'il a exposée et il appelle les gens à la décision. Et Jésus a déjà fait mettre application de différents segments, de différentes notions de son enseignement. Maintenant, ici, il est en train de faire une nouvelle application de son enseignement. Tout ce qu'il a expliqué là, eh bien, il s'approche de l'application finale, dans un sens, par rapport au bloc d'enseignement qu'il vient d'exposer depuis le chapitre 5. Et les gens, Jésus est en train de suggérer que les gens ont assez d'éléments en main pour prendre une décision maintenant. Et là, il fait appel, voyez-vous, comme nous faisons, comme nous prêchons la parole. Il croit que les gens, il a dit beaucoup, il a dit assez, il a dit suffisamment, il a décrit plein de choses, il a établi beaucoup de différences, beaucoup de limites, beaucoup de définitions qu'il a données, eh bien, il a rendu les choses assez claires, vous vous rappelez. Il a parlé de plein de principes, eh bien, maintenant, il croit que les gens devraient être en mesure de pouvoir prendre une décision. Et c'est à cela qu'il les invite en leur disant « Entrez par la porte étroite ». Il ne leur dit pas, eh bien, quelle décision qu'ils pourront décider, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Non, non, il leur dit « Entrez par la porte étroite ». C'est la décision que tout homme a à prendre, d'entrer par la porte étroite. Voyez-vous, bien important de comprendre cela. « Entrez par la porte étroite ». Entrer par la porte étroite. Les gens ont la possibilité de décider. Ils décident qu'est-ce qu'ils veulent porter comme vêtement. Les gens décident de qu'est-ce qu'ils veulent manger, qu'est-ce qu'ils veulent souper, qu'est-ce qu'ils veulent déjeuner où est-ce qu'ils veulent aller passer leurs vacances d'été ou de Noël ou je ne sais plus quoi. Les gens ont la possibilité de décider à quelle école ils vont aller, ils vont envoyer leurs enfants. Les gens peuvent décider qu'est-ce qu'ils veulent acheter comme voiture, comme maison. En tout cas, quand la vie leur donne ces choix-là. Hein? On sait qu'il y en a qui n'ont pas les moyens, mais eux qui n'ont pas les moyens, s'ils avaient les moyens, ce serait à eux de décider de le faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, voyez-vous? Ils peuvent décider quel métier apprendre, quelle carrière embrasser, voyez-vous? Alors, et c'est une manière pour moi d'introduire l'enseignement que je vais vous introduire, à savoir que, eh bien, dans la vie, il y a de ces décisions qui sont fondamentales. Il y a de ces décisions qui sont majeures. Il y a de ces décisions qui ont un impact sur toute une vie. Et à tout comme, il y a des décisions que nous savons qui sont mineures, qui ont possiblement, de par leur nature, peu d'implications, peu d'impact, peu d'importance quant à l'avenir des gens. Voyez-vous? Entre les décisions mineures, peu importantes, et les décisions qui peuvent changer toute une vie, bouleverser une vie, ou bien transformer une vie, eh bien, il y a nécessité de savoir laquelle on prend, quelle décision on prend. Il est vrai que ici, je m'adresse aux enfants du royaume, à des gens qui sont déjà dans le royaume, et je crois que cet enseignement vous servira dans vos enseignements que vous faites pour vos proches, ou bien à l'église, ou je ne sais plus où, envers qui. C'est important. Vous ne recevez pas cet enseignement parce que vous n'êtes pas encore dans le royaume. Vous êtes déjà dans le royaume. Mais au temps où Jésus adressait cet enseignement-là, il visait des gens qui n'étaient pas encore dans le royaume. Donc, vous pouvez bien avoir besoin de cet enseignement-là, d'abord pour glorifier Dieu, de ce qu'il vous a fait la grâce de passer par la porte étroite, de passer par le chemin resserré. Premièrement, pour action de grâce, vous entendez cet enseignement-là. Et deuxièmement, vous l'entendez aussi pour être mieux armé, mieux outillé, mieux équipé, eh bien, pour partager l'évangile, l'enseignement avec des gens, eh bien, qui souhaitent vous accorder du temps pour leur parler de l'évangile. OK? Alors, je referme la parenthèse. Si vous voulez savoir en quoi ça s'applique à vous, puisque vous êtes déjà passé par la porte étroite. Alors, et la parenthèse est fermée. Donc, Dieu a toujours permis aux hommes de prendre la décision de le choisir. Ou la parole de Dieu nous dira, Dieu nous dira, c'est moi qui vous ai choisi. On le sait bien, on le comprend dans un sens. C'est Dieu qui nous choisit tous et chacun, je comprends. Mais même si Dieu nous choisit, eh bien, Dieu nous appelle à le choisir aussi. Hein, déjà, le verset le dit, entrez par la porte étroite. Il y a une décision à prendre. Et c'est bien important de comprendre, c'est une collaboration, une coopération entre Dieu et les hommes qui est importante à comprendre en ce qui a trait au salut ou à la vie éternelle ou à la marche avec Dieu. Donc, bien important. Et Dieu s'attend toujours à ce que l'homme puisse exercer son libre arbitre. Hein? Dieu nous a créés à son image, nous sommes caractérisés par le libre arbitre, par la volonté, le pouvoir de prise de décision, le pouvoir, la faculté de prise de décision. Eh bien, Dieu aime voir les hommes exercer cette faculté-là, hein, et choisir, faire face et choisir Dieu. Il y a des conséquences, ne pas choisir Dieu a des conséquences. Depuis que l'humanité a tourné le dos à notre Dieu, frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu a fait tout ce qu'il faut, il n'a rien épargné pour ramener les hommes, ses créatures, eh bien, au bercail, à sa communion, à son intimité, à sa vie, à sa relation. Dieu a préparé le chemin, il a montré le chemin et l'homme n'avaient rien à faire sinon que de choisir le chemin que Dieu a préparé, le chemin que Dieu a révélé, le chemin que Dieu a montré aux hommes, frères et sœurs. Vous vous rappelez, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, le Seigneur a demandé à Moïse de dire au peuple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Voyez-vous comment Dieu s'attend à ce que l'homme exerce sa faculté de décision. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » C'est un passage que vous connaissez tous, Deutéronome 30, les versets 19 à 20. Et « J'ai mis devant vous la vie et la mort. » On parle ici de deux chemins. Chemin. Et la bénédiction et la malédiction, voyez-vous, c'est à l'homme de choisir. Choisis la vie afin que tu vives. Oui, c'est Dieu qui a choisi Israël. On en a parlé. Israël est un peuple élu. C'est le peuple élu de Dieu. C'est Dieu qui a choisi Israël en Abraham, leur père. Mais l'Écriture appelle les hommes à répondre, ou tout au moins, à répondre au choix de Dieu. Voyez-vous, bien important. Et afin que tu vives, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, c'est-à-dire à l'Éternel, Deutéronome 30, les versets 19 à 20. Première illustration, premier exemple du fait que Dieu, eh bien, s'attend à ce que nous exercions notre faculté de décision. Premièrement. Deuxièmement, après que le peuple d'Israël fut entré dans la terre promise, on a vu Josué qui a placé les Israélites devant un autre choix. Il leur a dit, continuez, hein, et voici le choix, continue de servir les dieux égyptiens et cananéens que vos pères avaient adoptés, ou bien, premier chemin, ou bien vous tournez vers le Seigneur qui vous a délivré de l'Égypte et qui vous a donné la terre promise et à travers eh bien, le don qu'il a fait de ce territoire à Abraham selon Josué 24, le verset 15. Josué dira, eh bien, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Voyez-vous, il y a toujours cet aspect qui est très important pour Dieu de choisir, de décider. Quand Jésus dit, entrez par la porte étroite à cette partie de la foule qui n'avait pas encore reçu son royaume, intégré son royaume, eh bien, il est en train de les appeler à choisir. Il est en train de les appeler à se décider, à la décision, comme je l'ai dit en introduction. Dans Jean 6, 66 à 69, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, on voit toujours la même idée de décision, d'exercer, eh bien, sa faculté. Et à Jean 6, versets 66 à 69, je vous lis le contexte et vous verrez le verset qui est important à retenir pour l'occurrence. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Voyez-vous, c'est l'appel que Dieu lance toujours aux hommes, mes frères et mes sœurs. Détournez-vous, eh bien, des autres voies, des autres chemins qui mènent à la perdition et tournez-vous vers le chemin qui mène à Dieu. Il n'existe pas plusieurs chemins qui mènent au ciel. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. dans le royaume de Dieu, à la vie éternelle, dans le paradis de Dieu. Il n'y en a qu'un seul, frères et sœurs. Il n'y en a pas plusieurs religions qui mènent à la vie éternelle. Il n'y en a pas plusieurs religions qui mènent au royaume de Dieu. Il y en a une seule. C'est la religion de la confession de Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître, qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, envoyé de Dieu pour le salut de l'humanité. Ainsi donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'homme ne peut pas venir à Dieu par les nombreux chemins que l'homme a tracés par lui-même. Les chemins des opinions personnelles, les chemins de l'anthropocentrisme, les chemins de l'individualisme, les chemins de l'autonomie, les chemins des scribes et des pharisiens qu'on appelle, que vous et moi nous avons vu, qui est le chemin de la propre justice, tous ces chemins-là, aucun ne mène au royaume de Dieu, aucun ne mène à la vie éternelle, aucun ne mène à Dieu, mes frères et mes sœurs. L'homme ne peut pas venir à Dieu par ses chemins, mais l'homme peut venir à Dieu uniquement par le chemin que Dieu a tracé. Et le chemin que Dieu a tracé, eh bien, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin de la justice. Jésus-Christ est le chemin de la justice. Il est le chemin de la révélation divine. Il est le chemin de la vérité et le chemin de la vie, mes frères et mes sœurs. Le chemin qui consiste et qui mène au royaume, c'est le chemin qui consiste à faire confiance à Dieu. C'est le chemin qui consiste à s'appuyer sur, non pas les bonnes œuvres, les œuvres humaines, comme les scribes et les pharisiens se plaisaient à le croire, mais le chemin qui consiste à se confier en la grâce, en l'amour, en la miséricorde et dans les compassions de Dieu. Ou alors, le chemin qui consiste à se fier aux œuvres seules, nécessaires et méritoires de Jésus de Nazareth, notre roi. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent, eh bien, par là, c'est-à-dire par ce chemin. Et à remarquer à la lumière du verset 13 que le commandement de notre Seigneur, de notre roi, n'est pas seulement d'entrer par une porte quelconque, non, mais d'entrer par la porte étroite. Le chemin du ciel, c'est le chemin de la porte étroite. Chacun entre par une porte ou par une autre, soit par la porte large ou par la porte étroite. C'est inévitable. Il n'y a personne qui ne soit pas dans un chemin. Il n'y a personne qui ne soit pas passé par une porte. Chaque être humain, à partir du moment où il existe, eh bien est passé par l'une ou l'autre des deux portes, la porte étroite ou la porte large. Et Jésus, lui, il nous exhorte à entrer par la bonne porte. La bonne porte étant, vous le savez, on l'a vu, étant la porte étroite, la porte de Dieu, la seule porte qui mène à la vie, au ciel, à l'éternité, la seule porte qui nous rende aptes en Jésus-Christ d'espérer qu'à son retour, le Fils de Dieu, eh bien, nous mènera dans la présence éternelle de son Père pour vivre avec lui au siècle des siècles, dans la joie et la félicité. C'est la bonne porte, c'est-à-dire la porte étroite. Je l'appelle la bonne porte. Vous verrez pourquoi, peut-être aujourd'hui ou ou lors d'une séance d'enseignement subséquente. Mais c'est ça, c'est la bonne porte. La porte étroite ce soir, c'est la bonne porte. Nous allons devoir quitter les lieux avec cette vérité. Vous et moi, Dieu nous avait fait la grâce de passer par la bonne porte. Regardez la personne qui est à côté de vous, votre mari, ou votre épouse, ou votre enfant, ou votre père. Dites-lui que par la grâce de Dieu, nous sommes passés par la bonne porte. La bonne porte, c'est la porte qui mène à la bonne destination. La porte de gloire, la porte de satisfaction, la porte de bonheur, la porte de vie éternelle. Voyez-vous, Jésus dit, il est lui-même cette porte. Ah, il est cette porte et en même temps, il est ce chemin. Jean 14, le verset 6, vous l'avez inscrit dans votre église. Hein? Ah, quand on arrive dans votre église, la première des choses qu'on voit, c'est ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus se pose comme étant la porte. Jésus se définit comme étant la porte. Il est le roi. Le royaume est venu en lui. Et donc, il est la porte. Hein? Et en Jean 10, verset 9, et non seulement il dit qu'il est le chemin, par le fait même, il est la porte, mais il va dire textuellement qu'il est la porte. En Jean 10, le verset 9, il va nommer porte. Il est à la fois le bon chemin et la bonne porte. En Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Voyez-vous, quand je vous disais en début, avant de vous avoir donné des références, que la bonne porte, c'est Jésus, eh bien, et ce n'est pas de moi que cela vient, hein, ça vient de l'Écriture elle-même. Quand il dit « entrer par la porte étroite », il fait référence à lui. Ah, il fait référence à lui. C'est lui la bonne porte, la porte étroite. Alors, si dans le monde, si dans la vie, la porte étroite n'est peut-être pas la bonne, eh bien, dans le royaume de Dieu, la porte étroite, c'est la bonne. En ce qui a trait au royaume de Dieu, la logique est différente. C'est la porte étroite. Vous vous rappelez, quand vous déménagez, vous rentrez vos meubles, vous dites, ah, la porte est trop étroite, on peut pas, on va écraser, on va défaire la porte, on va l'agrandir. Ah, dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. La porte reste, la porte étroite, c'est la bonne. Et vous et moi, nous enseignons l'évangile et aux gens, mais les gens vont le remarquer. Hein. Il y a des gens qui sont réticents à accepter Christ comme étant leur sauveur parce qu'ils réalisent que eh bien, cette porte-là est trop étroite. Ils ne comprennent pas. Mais nous devons assumer que nous enseignons un évangile axé sur la porte étroite. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte chapitre 4, le verset 12. Le nom n'est pas mentionné, mais nous savons que le saint apôtre fait référence eh bien, à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quand il dit il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Et parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup de références dans la parole de Dieu qui nous montrent, qui nous font comprendre que la porte étroite, la vraie porte, la bonne porte, c'est Jésus de Nazareth, notre roi. Il n'y a pas que la porte, et il y a aussi le chemin. Les deux portes mènent à deux chemins. La porte étroite mène à un chemin et la porte large mène à un chemin. La porte qui est large mène au chemin large, au chemin spacieux, dit l'Écriture, d'après le verset 14, et la porte étroite mène au chemin resserré. Porte étroite mène au chemin étroit ou alors resserré, et porte large mène au chemin large. Mais vous savez, le chemin, ce n'est pas encore la destination. Il y a la porte, il y a le chemin, il y a la destination. Il y a trois éléments à considérer quand on part eh bien, de la porte. La destination de la porte, ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est un passage vers la destination à laquelle la porte donne accès. Bien important, deux portes, deux chemins, deux destinations. N'oubliez pas, deux portes, deux chemins, deux destinations. La porte large mène au chemin large, ou alors nous fait passer par le chemin large, et la porte étroite nous fait passer par le chemin étroit pour aller à la destination à laquelle chacune nous amène, frères et sœurs, mes bien-aimés. Alors, bien important de comprendre cela. Le chemin resserré, quel est-il? Mais on a déjà dit ça dans mon exposé, mais vous aussi, il n'y a pas un point de doctrine, c'est un passage assez abordable. Le chemin resserré, quel est-il? Mais c'est le chemin de la justice. C'est le chemin de la grâce. C'est le chemin de l'obéissance. C'est le chemin de l'acceptation de l'œuvre parfaite de Jésus. C'est ça, ici, le chemin resserré. Et bien important. Et le chemin spacieux, lui, c'est le contraire. C'est le chemin de l'injustice. C'est le chemin de l'auto-justice, de la propre justice, des opinions de l'homme, des opinions personnelles, des philosophies humaines, le chemin du plaisir, bien manger, bien boire, et demain nous mourrons tous. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas de vie éternelle à préparer, il n'y a rien après la mort. Tout cela peut résumer le chemin spacieux, avec la porte spacieuse, son ami, et ce que j'ai dit avant peut résumer le chemin resserré avec la porte étroite, eh bien, dont j'ai parlé précédemment, faisait ça. Alors, le chemin qui est spacieux, c'est le chemin du monde. C'est le chemin facile. C'est le chemin attirant, bien attrayant, entre guillemets. Hein? C'est le chemin de l'indulgence. C'est le chemin permissif. C'est le chemin de la centralité de l'homme. Ah, le chemin de la centralité de l'homme. C'est ce que j'ai mentionné quand j'ai dit le chemin de l'anthropomorphisme. L'homme est le centre du monde. Pas Dieu, pas Jésus, pas la parole de Dieu, mais c'est l'homme qui est au cœur des choses. Les choix se font, les décisions se prennent en fonction, eh bien, de l'homme et non de Dieu. Dieu n'a rien à voir. Dieu n'est pas consulté. Eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport au chemin spacieux. Eh bien, dans le chemin spacieux, la désobéissance est permise. Le péché est toléré. Rien n'est rien. La vérité est diluée. Parce que j'ai parlé de philosophie humaine. La parole de Dieu est secondaire. Ce chemin n'exige pas de maturité spirituelle. Ce chemin n'exige pas de caractère moral. Ce chemin ne met pas l'accent sur la grâce, sur l'engagement, sur le sacrifice du Christ. Eh bien, c'est le chemin du train du monde. C'est le chemin dont Satan, le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Éphésiens 2, le verset 2. Et enfin, c'est le chemin tragique qui paraît droite à un homme, mais dont l'issue est la mort, ou dont l'issue, c'est la voie de la mort, selon Proverbe chapitre 14, le verset 12. Il est 21h précise, je veux m'arrêter là. Je me rappellerai que je suis au verset 14 de Matthieu chapitre 7. J'espère que vous avez été bénis par ce que Jésus vous a envoyé ce soir à travers un serviteur inutile. Et personnellement, je suis béni doublement dans la prière, dans la préparation de l'enseignement, mais aussi quand je dispense l'enseignement. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Je vous remercie de votre patience, de votre générosité. Et merci de m'avoir enduré pendant environ 40 à 45 minutes, je ne me rappelle plus. Que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, vous bénisse. J'arrête l'enregistrement et après, vous aurez le privilège de poser vos questions ou de passer des commentaires pour faire avancer la parole de Dieu dans nos cœurs, dans notre esprit, aux fins de méditation, etc. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Amen.
Amen. Amen.